Nous sommes jeudi 13 juin 2019. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal du studio Kalangou au micro Nafissa Adam Sirfo. Les titres de ce journal, les parlementaires des pays du Sahel sont à Niamey pour trouver des réponses au terrorisme qui sévit dans cette partie du continent. Un parlementaire nigérien s'exprime dans ce journal. La consultation ophtalmologique pour les personnes albinos est désormais gratuite à partir de cette année au Niger. Une décision prise par le ministère de la Santé à suivre la présidente de l'association des albinos à l'occasion de leur journée internationale à célébrer ce 13 juin. À suivre également les raisons du chômage des jeunes de la région du Diffa, c'est dans la partie magazine de cette édition. Dans la nuit du mardi, des hommes armés non identifiés ont enlevé le chef du village de Takrozat, situé à 15 km au nord de Bankilaré, région de Tillabéri. Selon le chef du groupement Touareg de Bankilaré, ces individus auraient emporté aussi tous les biens et le bétail de la victime. El Moumine Boula, chef du groupement Touareg de Bankilaré, au micro de notre correspondant sur place, Youssef Ilewat.
Ces bandits armés sont au nombre de 24. Sur 8 motos. Ils sont venus chez lui à 19h30. Ils l'ont pris, ils l'ont amené. Lui et tout ce qu'il a comme animaux, des chameaux, des chèvres, des moutons et des vaches. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été retrouvés. Les gens sont sur leur trace, l'armée est sur leur trace, mais jusqu'à présent, rien n'a été signalé. Sauf les gens de chez lui qui sont à pied, ils ont pu avoir sa chemise. Je ne sais pas si elle est tombée, ou si c'est les gens-là qui ont jeté la chemise. C'est tout ce que nous connaissons comme information tout à l'heure.
Retenez que les recherches de l'armée et des membres de la famille de ce chef n'ont encore rien donné, nous précise notre correspondant. Je l'annonçais en titre, être mieux outillé afin d'apporter des réponses parlementaires au terrorisme au centre d'une conférence des parlementaires des pays du Sahel ouverte hier à Niamey. Selon un député du Niger, les parlementaires entendent être à l'avant-garde de la prévention de ce fléau. Maman Saleh, membre de l'Union interparlementaire UIP au micro de Moussa Hassan.
L'objectif visé à travers cette conférence, c'est de doter les parlementaires d'outils qui va leur permettre de mieux connaître d'abord le terrorisme et d'apporter leur contribution afin d'abord d'être à l'avant-garde de la prévention du terrorisme et ensuite apporter des solutions parlementaires pour lutter non seulement contre le terrorisme et aussi le financement de ce terrorisme. La question de sécurité et de terrorisme, c'est une question mondiale. Au Niger, les députés ont effectué des missions sur le terrain pour sensibiliser les populations sur le terrorisme et les dangers que cela comporte. Et cet exemple du Niger a été apprécié par tous les parlementaires qui sont venus au niveau de cet atelier. Donc la question de sécurité n'est pas seulement une question du gouvernement, c'est une question de tout le monde. La population doit s'impliquer, les députés doivent s'impliquer, la société civile doit s'impliquer, elle n'épargne personne.
À Diffa, ville fuyant l'insécurité due aux attaques de Boko Haram, 73 femmes venant des environs et du Nigeria voisin se sont regroupées en une association dénommée Aïtima, qui veut dire Union Antamachek. Le cri de cœur de Fatima Moussa, appelée aussi Fatima Bouzoua, présidente de cette association.
Nous sommes au total 73 femmes regroupées dans une association qui est notre propre initiative. Il y a des femmes réfugiées, des retournées et même des autochtones. Nous n'avons jamais bénéficié d'aide de qui que ce soit. Toutefois, nous avons besoin de soutien d'autres organisations. On se réunit chaque semaine pour échanger entre nous de certaines violations de nos droits. Occasionnellement aussi, nous nous regroupons pour confectionner des nappes et d'autres apprennent le tricotage. Ce qui nous freine surtout, nous ne disposons pas d'assez de matériel. Mais si on nous aide, on peut aussi soutenir d'autres femmes vulnérables. Parce que dans cette association, nous sommes avec des veuves, des divorcés.
Des propos recueillis par notre reporter Hawa Ousmane en mission dans la région. Les consultations ophtalmologiques désormais gratuites pour les personnes albinos au Niger, c'est la décision prise cette année par le ministère de la Santé, selon Khadijatou Moumouni, présidente de l'Association des albinos du Niger. La consultation dermatologique, elle est prise en charge par la Fondation Raoul Folero pour les albinos de la région de Niamey, ajoute-t-elle à l'occasion ce jour de la Journée internationale de l'albinisme. On l'écoute.
Les années antérieures, les personnes atteintes d'albinisme au niveau de la région de Niamey sont consultées au niveau d'un cabinet dermatologique privé. Mais cette année, avec le partenariat que nous avons avec une fondation qui se trouve en France, la Fondation Folero, les consultations ont été transférées au niveau du centre dermato de Bukoti, au niveau du public. Là, c'est vraiment une très grande avancée. En dehors de cela, toujours dans le cadre du partenariat avec la Fondation Folero, il y a une prise en charge pour les consultations. Et pour ceux qui sont vraiment démunis, on a l'appui de la fondation pour payer les produits dermato pour les patients. Grâce à ce partenariat, on a pu acheter des crèmes et distribuer aux membres de l'association. On est même dans la perspective avec cette fondation de vouloir installer une unité de production locale de crèmes solaires au Niger. Mais ce qui reste, c'est maintenant la prise en charge pour les collyres et autres. Pour l'ophtalmologie, on a approché le ministère de la Santé publique. Le ministre a pris une décision pour rendre gratuite toutes les consultations ophtalmo au niveau de l'ensemble du territoire.
Des propos recueillis par Adama Dawaki. Suite à la découverte de deux cas de poliomyélite à Mejirgi, département de Dessawa, région de Maradi, l'État a décidé de vacciner tous les enfants nigériens contre cette maladie. Le lancement de la journée nationale a eu lieu ce matin sur l'ensemble du territoire national. Elle s'étalera du 13 au 16 juin. El Hadj Harouna Alassane de la Direction régionale de la santé publique de Maradi parle de cette riposte couplée à des suppléments de vitamine A et un déparasitage. Il est au micro de Mohamed Maman.
Récemment, dans la région de Maradi, à Mejirgi, on a eu deux cas de polio. Cette campagne-là qui est en train d'être organisée, effectivement, c'est des dispositions qui sont en train d'être prises pour éradiquer la poliomyélite du territoire nigérien. Pour la gestion des cas de refus, on a pris des dispositions à ce qu'on appelle la gestion préventive des cas de refus. Il y a une cartographie qu'on fait, donc les gens qui ont refusé l'autre passage, on les a ciblés. Donc avant la campagne, les leaders d'opinion sont allés les voir avant la campagne, donc pour essayer de les sensibiliser. Et les objectifs, c'est de vacciner pour la poliomyélite 1 323 070 enfants. Pour la supplémentation vitamine A, 1 166 100 enfants. Et pour l'albendazole, 1 071 527 enfants à déparasiter.
Bon début de saison pluvieuse dans le département de Kanché, région de Zender, selon le préfet Moussa Sayebou, à l'issue d'une visite effectuée sur le terrain. Environ 86% des villages agricoles ont semé. D'autres précisions dans ce reportage de Habou Serki Salé, notre correspondant à Matamé.
Dans le département de Kanché, région de Zender, la situation agricole évolue normalement puisque sur les 293 villages agricoles qui comptent le département, 253 ont effectué des semis humides. Le préfet du département de Kanché, Moussa Sayebou, nous livre son sentiment à l'issue d'une visite sur le terrain qu'il a effectué.
Nous sommes aujourd'hui à 86,27% des semis au niveau de l'ensemble des villages agricoles. Et sur 9 communes, nous n'avons que 2 communes en tout cas où les semis n'est pas à 100%. C'est notamment la commune de Matamé et la commune de Saouni. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime aujourd'hui et nous allons continuer à implorer le bon Dieu pour que la campagne agricole 2019 réponde aux aspirations de nos agriculteurs et de nos pasteurs au niveau de notre pays, au niveau de notre département en particulier.
Quant au directeur départemental de l'agriculture de Kanché, M. Magaji Chemo, à l'allure où vont les choses, il n'y a aucune inquiétude.
À l'allure de l'installation donc de la campagne, on n'a aucune inquiétude puisque les semis du mil sont presque, je dirais, à 100%. Donc maintenant, c'est l'arachide et les autres spéculations, notamment le nibé, le sésame, que les gens sont en train donc de semer.
À Tawa, les autorités municipales interdisent l'importation et la vente des pétards de la ville. Cela fait suite aux nombreuses plaintes des populations. Les autorités indiquent que tout contrevenant s'exposera aux sanctions de la loi. Aliou Aboubakar, secrétaire général de la mairie de Tawa, au micro de Idrissa Adam.
Depuis la veille de la fête, certaines personnes utilisent des pétards. Et vous savez, le bruit du pétard, pour celui qui ignore ce que c'est, en entendant son explosion, va croire que c'est un crépitement de rafale d'une arme de guerre, pendant que nous sommes dans une situation d'insécurité, où nous cherchons à sécuriser les populations et leurs biens. Et pour sécuriser, il va falloir créer les conditions nécessaires qui vont permettre à nos forces de défense et de sécurité de nous assurer la sécurité, puisque en faisant exploser les pétards, cela peut créer une confusion. Par exemple, quelqu'un qui est en train de prier, subitement, il entend les crépitements des pétards. Par cette surprise, il va se dire que c'est des coups de feu. Et bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre toutes les dispositions idoines pour interdire la vente des pétards et leur utilisation dans cette ville. Nous allons instruire les forces de défense et de sécurité de procéder à l'arrestation de toute personne qu'elles trouveront en train de vendre les pétards. Et ceux qui l'utilisent seront également arrêtés.
Trouver des initiatives sociales à revaloriser à travers des politiques traditionnelles, c'est l'objectif d'une rencontre d'échange vendredi à Agadez entre les populations, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres partenaires pour pérenniser la solidarité. Des précisions avec Zézilède Moutari de l'UNICEF au micro de Anissé Karim.
L'objectif, c'est de venir puiser dans les profondeurs du savoir-faire culturel autour de l'entraide et de la solidarité traditionnelle. Eh bien, c'est parce que nous pensons que c'est le référentiel. Ce que les gens font sans le financement des PTF a toutes les chances de survivre, contrairement aux interventions qui sont financées par X ou Y et qui s'arrêtent dès que le financement s'arrête. De s'appuyer sur tout ce qui renferme l'art artistique, le théâtre, le cinéma, les sketchs, les chansons. Quand on parle de protection sociale aujourd'hui, si on la construit sur les valeurs culturelles ancestrales qui prennent l'entraide, qui prennent la cohésion, eh bien on est sûr qu'on trouvera des initiatives qu'on peut encore revaloriser, de créer un premier espace d'échange intergénérationnel avec les différentes catégories d'acteurs pour qu'ensemble on fait un retour aux sources, on découvre qu'est-ce qui vaut la peine d'être considéré dans ce que nous avons appelé reconstruction et réflexion nouvelle pour des pistes nouvelles de la protection sociale solidaire.
À présent, la partie magazine de cette édition, le manque de qualification pour les jeunes de l'IFA fait partie des restrictions à l'emploi selon le chef service jeunesse de la région, ce qui du coup augmente le taux de chômage au sein de cette frange de la société. Toutefois, des actions sont menées au niveau régional pour atténuer la situation. Mazou Abdou, chef service régional de la jeunesse au micro de Mokhtar Hamadou.
À Difa, le chômage des jeunes constitue une préoccupation pour les autorités régionales. L'insécurité qui sévit dans la région depuis 4 ans paralyse l'essentiel des activités socio-économiques, selon le chef service régional de la jeunesse de Difa, Mazou Abdou.
La situation du chômage dans la région de Difa, elle est très critique. Parce que le problème que nous avons au niveau de Difa, d'abord, nous avons un nombre très important de jeunes non scolarisés. Alors, les jeunes qui sont non scolarisés, c'est des jeunes qui ne sont pas détenteurs de diplômes. Et aujourd'hui, si on veut certaines activités, on demande le minimum d'un diplôme, alors que ces gens, cela n'en ont pas. C'est pourquoi toujours qu'il y ait des problèmes avec les jeunes et avec certains partenaires. Ils disent que le partenaire est venu à Difa, mais il a refusé de recruter les jeunes de Difa. Alors, lui, il a son principe. Si aujourd'hui, il a besoin, par exemple, d'un conducteur de Hockler, un engin de 80 millions, il demande, il lance l'offre, alors que parmi nos jeunes, il n'y a personne qui a ce diplôme. Donc, il serait obligé de faire appel à d'autres qui ont ce diplôme-là pour travailler. Donc c'est ça le problème que nous avons au niveau des diplômes. Et les peu qui ont les diplômes requis, ils ne viennent pas à Difa ou ils ne sont pas assis au niveau des Difa, ils sont ailleurs. Oui, donc c'est ça le problème des jeunes, parce que le seul poste qu'on prend pour les jeunes, c'est le poste des auxiliaires, gardien, chauffeur, permis B, pour longtemps, etc. C'est ce qu'on y prend. Donc pour des postes qualifiés, nous n'en avons pas.
Quelles sont les dispositions au niveau régional pour faciliter l'accès de ces jeunes aux emplois?
Quand vous prenez par exemple la formation professionnelle, il y a un centre. Dans ce centre-là, on est en train d'apprendre aux jeunes certains travaux pour se qualifier. Par exemple, la soudure métallique, la maçonnerie, la plomberie, toutes ces activités sont en train d'être exercées au niveau de la formation professionnelle. On les apprend. Maintenant, à la fin, ils ont des attestations. D'autres ont même des diplômes qui vont leur permettre exactement quand le besoin se fait sentir. Même au niveau des centres de promotion des jeunes, nous sommes là en train d'apprendre aux jeunes, par exemple, la sérigraphie, il y a la couture, il y a l'agriculture. Et là aussi, c'est un cycle de 4 ans. Quand ils finissent ça, ils vont avoir un diplôme. Ça va leur permettre effectivement maintenant de postuler s'il y a une demande quelque part.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.